bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
À l'heure.
Avec Leïla Kadobou-Dédi, Daniel Morin,
bonjour Guillermo,
Guillermo Lille, Tanguy Passereau et nos invités Sabine Benzema et André Dussollier.
Bravo, bravo. Bravo.
Ravi de vous accueillir, merci d'être là au rendez-vous. Merci. C'est quoi ce regard coquin que vous me faites, Sabine?
Arrêtez.
Arrêtez, je suis fragile comme garçon, je suis fragile.
C'est naturel.
Ne me regardez pas comme ça.
Ça s'appelle le charme, l'élégance.
Bah oui, mais ça.
La
ça...
Ah, je vous plais, hein.
Ça, ah oui.
Tant
clairement,
mieux.
Clairement, clairement. Allez, André, non.
Non, André, vous êtes super. André, regardez-moi.
André, là.
Je suis là. Moi aussi, je vous fais. J'essaie de vous faire un regard, Sabine Azéma.
Les rôles sont distribués.
Mais vous avez tellement tourné. On est ensemble tous les deux, vous devez comprendre ce que je dis avec ce regard.
Je vous comprends parfaitement.
Mais non,
je comprends.
C'est,
il suffit. Hein? Ah oui, c'est vrai, on est un vieux couple, on est habitué maintenant. On avait une petite surprise. On se connaît par cœur.
Comment avez-vous réagi? Depuis quand étiez-vous au courant du retour de Tanguy? Pas le fait qu'il revienne vivre chez vous, mais qu'Étienne Chatiliez prépare un plan B ou un plan 2.
On n'imaginait pas qu'il reviendrait, et puis on était loin de le penser. Non, c'est l'idée de producteurs, Jérôme Corcos et Antoine Peset, voilà, et qui ont dit, mais si Tanguy revenait, et donc vraiment sur la pointe des pieds, on y est allé avec Sabine. J'en ai parlé d'abord avec Sabine, qui a eu un hockey de plaisir.
Étienne Chatiliez le premier, donc j'imagine, les producteurs en ont parlé à Étienne Chatiliez, ou c'était une idée qu'il avait,
non,
lui?
Non, c'est moi qui a appelé Étienne, et puis à ce moment-là,
d'accord,
il a dit,
donc vous avez été moteur de cette, de ce retour.
Oui, puis il veut mon assentiment. Hein, parce que
ah bah oui, bah. Bah, il fallait que maman soit là aussi.
Oui, bien sûr.
Évidemment.
Là, évidemment. Puis il fallait surtout qu'Étienne soit inspiré et qu'il ait envie de raconter aussi cette histoire ou la suite. Donc du coup, c'est parti comme ça. Et puis ça s'est fait assez vite, hein, finalement, entre l'écriture et le tournage.
Oui, ça s'est fait assez naturellement aussi. C'est le sentiment qu'on a avec ce couple qui vit une deuxième jeunesse avant d'être perturbé par le retour d'Éric Berger, comédien qui interprète Tanguy. Et,
c'est une malédiction d'être parent, en fait. C'est-à-dire que le jour où tu dis ça y est, j'ai enfin la paix, ben encore c'est reparti.
Jamais,
c'est sans fin.
C'est ça, c'est sans fin et surtout.
C'est un plaidoyer pour le célibat, pour l'absence d'enfants, pour
le
tout ça.
Et vous avez des enfants?
Non, c'est pour ça.
Ah.
Voilà, je constate la joie que vous avez.
C'était quoi la suite de la question, Sabine? Parce que j'en ai, alors vous voulez me dire quoi? Alors j'ai des enfants.
Je vous pose
donc
la question, vous en avez?
Oui.
Et alors
quoi ça se passe?
Une trentaine en plus.
Bah non, mais ouais, déjà.
Il paraît que celui qui a 5 ans est revenu habiter à la maison et Nagui le supporte
non,
pas.
Non, en fait, vous en voulez d'autres?
Ah bah je pense.
Bah 4, ça va, non, je sais pas.
Vous en avez 4?
Mais oui.
Des garçons?
Non. Mais beaucoup. C'est important, filles et garçons?
Ah oui.
Ah bon, d'accord.
Oui.
Non, filles et garçons.
Oui, c'est bien.
Ça va?
Oui,
je peux
va.
Continuer l'émission?
4 de chaque.
Okay.
On verra.
C'est gentil. Allons-y pour savoir si vous avez bien préparé cette émission.
Ouais.
Et dites-moi, pendant ses premiers cours de théâtre, pourquoi Sabine Azéma était souvent gênée?
La timidité, elle trouvait très beau le prof de théâtre.
Elle devait être nue.
Il y avait porter la
aussi,
voix.
J'imagine qu'il y a des cours de théâtre qui s'amusent à faire ça aussi.
Elle était bègue.
Non.
Elle était la seule fille.
Non. Enfin, je pense pas.
Non.
Il y avait quelque chose qui l'a troublé, qui l'a gêné,
Elle était amoureuse de quelqu'un dans son cours.
Ouais.
Non.
Moi, je te dis oui, moi.
Merci.
Allergique à la poussière des planches et des rideaux.
non,
mais en
qu'est-ce que ça pouvait?
En tout cas, il y avait une réaction physique.
Physique?
Oui.
La lumière, la lumière dans le visage.
L'urticaire, de l'eczéma, un truc comme ça.
Pas loin.
La transpiration.
La rougeur, devenait rouge.
Exactement.
Tout le temps.
Exactement.
La rougeur.
La rougitude.
Il avait la rougeur.
La rougeur.
C'est une pathologie.
Non, mais ça n'a pas commencé au cours. Hein,
non, mais ça vous
gêne. Ça a commencé déjà au lycée.
Oui, mais là, en cours de théâtre, ça vous gênait. Vous dites le regard de ceux qui étaient plus âgés dans le cours de théâtre, vous troublez.
J'étais d'une timidité incroyable, en même temps d'un culot incroyable, parce que quand on vient prendre des cours de théâtre, il faut oser. Mais c'est vrai que j'ouvrais la bouche.
C'est peut-être pour soigner la timidité, d'ailleurs, qu'on prend des cours de théâtre, non?
Non.
Non,
non, c'est certains, pas inconscient, en tout cas, le font. Je sais pas. Et puis on a du courage, quoi. Mais c'est vrai que, alors, je commençais à rougir. Mais alors, tout le cou, le visage, c'est très gênant. Surtout que les autres sont très délicats et disent oh là là, t'es toute rouge. Donc si là, vous devenez violette. Et vous dites mais calmez-vous, calmez-vous. Faites comme si ça n'existait pas et tout redeviendra normal.
Est-ce que cette gêne, vous l'avez maîtrisée avec l'expérience, justement, ou est-ce que c'est pas pour.
Après, j'ai commencé à tourner. Et alors là, c'était encore pire sur les tournages, là, affolement, maquilleur. Arrêtez le moteur, arrêtez de tourner.
Ça se voyait l'image.
Mais non, ça se voit pas. Et même, je vais vous dire, c'est grâce à ça que René m'a engagée.
Parce qu'il trouvait charmant que vous rougissiez.
Je crois, peut-être charmant qu'une actrice puisse rougir comme ça à l'écran, spontanément, peut-être pas avec la commande du metteur en scène. Mm-hmm. Parce que, au pouvoir.
On dit moteur, vous rougissez.
Si le metteur en scène demande.
Déjà là, ça commence un peu. Là.
Vous trouvez ?
Ouais. J'aime bien. Finalement.
Arrêtez, vous êtes violette là. Arrêtez.
Et André, vous savez faire quoi, vous ? Parce qu'il va falloir qu'on les rattrape.
Me faire rougir.
Voilà.
Ah non, là, c'est vraiment. C'est pas mal, là, de rougir en direct où il y a des émotions.
Tu
c'est
pas
vrai,
pas
les actrices
ça, quoi,
sont très fortes. Hein, où clap comme ça, elles peuvent pleurer, rire, rougir. Non, ils nous font. C'est du boulot, hein. C'est vraiment beaucoup plus.
Les femmes ont beaucoup plus d'émotions.
Les hommes doivent.
On est
éduqués, nous, pour cacher nos émotions. Ah hein, bon et, oui, donc, il faut dépasser tout ça.
C'est peut-être fini, non, maintenant, ça
ouais,
on n'a plus peur de pleurer.
Non.
Ça vient d'être. On n'a plus peur de pleurer, ouais. Comment André Dussollier a-t-il pu s'immiscer dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en 68 à Grenoble ?
Il s'est fait passer pour un athlète de haut niveau, le porte-drapeau.
Exactement. Dans la chorale. Vous êtes rentré dans la chorale de la cérémonie, mais par effraction, comment c'est passé ?
Avec un gilet jaune. Non, c'est pas bien ce que je dis là. Alors,
T'es sûr qu'il faut dire ça, André ?
Non, bien sûr que non, il
mais
faut pas
drôle.
Le dire.
Mais c'est drôle.
Mais non, c'était en 68. Non, mais c'est vrai que tout le monde, toute la chorale était avec des anoraks jaunes. Voilà, et donc j'avais repéré
c'était
ça.
C'était pas
moi. C'est vrai. Ah oui, c'était pas par hasard que je disais ça. Non, il y avait le jaune qui était commun, simplement. Ouais. Donc j'avais repéré qu'ils avaient. Alors les contrôles étaient beaucoup moins violents qu'à la maison de la radio, là, quand on arrive.
Vous êtes fait tabasser ce matin.
Jusqu'au sixième.
Vous savez que même Teddy Riner, on ne le laisse pas rentrer.
C'est vrai.
Il faut du courage pour dire non à Teddy Riner.
Et donc, bref, j'avais repéré qu'il y avait des anoraks jaunes, et que les choristes avaient cet anorak jaune. Donc, j'ai eu un complice qui m'a passé un anorak jaune. Et après, bon, chanter la Marseillaise, tout le monde peut.
Mais alors, quelle était pour vous l'urgence vitale d'être à la cérémonie des Jeux Olympiques ?
J'étais à Grenoble, je voulais absolument assister aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est là où Kylie a gagné ses 3 médailles d'or.
Il y avait ça, vous ne le saviez pas.
À la cérémonie non, d'hiver,
il l'avait senti.
Pour vous, c'était parce que c'était un événement mondial, parce que c'était du sport, parce que ça n'arrive qu'une fois dans une vie.
Ça, oui, voilà, les Jeux Olympiques à Grenoble, ça ne se ratait pas. Quoi. Il fallait être là, j'avais envie de voir comment ça se passait. C'était magnifique.
Qu'avez-vous gardé comme souvenir, à part l'anorak ?
Un beau souvenir, c'était incroyable d'être là, dans un endroit où tout le monde aurait voulu être. Et c'était inattendu. Et puis j'ai suivi ça jusqu'au bout, et jusqu'à aux médailles d'or de Kylie.
Vous avez encore les yeux émerveillés en le racontant. Vous vouliez dire, Sabine ?
Oui, il faut ajouter que c'est un grand skieur.
Non,
il est né dans la montagne.
Ah oui, vous êtes annécien.
Oui, je suis annécien voilà. Et grenoblois aussi.
Il est modeste, mais grand skieur.
Mais pas du tout.
Mais je l'ai vu.
Et il est encore plus modeste.
Arrêtez de cacher vos émotions. Arrêtez. Libérez-vous.
Tu rougis, André.
Quel comédien, quel acteur.
Quand Sabine Azéma se faisait gronder par ses parents, comment réagissait-elle?
Je rougissais.
Non, justement.
Elle fuguait, elle boudait. Elle riait.
Alors, c'est pas loin, mais c'est il y a vraiment un truc précis.
Elle s'enfermait dans sa chambre.
Alors, non.
Elle enfermait ses parents dans sa chambre.
Elle les collait pour avoir des câlins, elle riait.
Pas du tout.
L'inverse. Elle criait, un animal. Elle hurlait, elle menaçait de les quitter.
Elle se vengeait sur le chien.
Il y a une menace, mais c'est pas celle-là.
Mais c'est simulé.
De ne plus être leur fille, de se faire adopter par quelqu'un d'autre.
Non, mais je prends ce que dit Daniel Morin. En fait, vous sortiez dans la rue et vous criez « je vais me tuer ».
Bon esprit.
Tout ça parce que tu voulais pas.
Vous mélangez deux choses, excusez-moi.
Ah, bah oui.
Donc, je vais me tuer, oui. Petite, je crois que j'ouvrais la porte d'entrée et j'allais sur la route en disant je veux mourir. Voilà. J'ai conscience de la mort très jeune.
C'est ce que je viens de dire.
Toute petite. Hein. En fait, je faisais rigoler mes parents. Enfin bon. Non, je faisais la grève de la faim après.
Ça fait rire les parents d'avoir un enfant sur la route en disant je vais mourir.
C'est vrai, c'est
de la vanne.
Donc après, c'est la grève de la faim.
Après, je faisais la grève de la faim.
On peut en mourir.
Ouais, c'est dangereux.
Oui, mais j'en suis morte.
Ça durait quoi, une demi-journée?
Ah, ça pouvait durer deux jours.
Ah, d'accord.
Oui. Mais bah, pardon, les rapports avec vos parents.
Ah, il y avait de la sévérité. Hein.
Ah, c'était eux qui étaient sévères ou vous étiez un peu soupolé?
Soupolé? Non, pas soupolé. Peut-être que je faisais des bêtises, je sais pas. Mais en tout cas, ils étaient. Oui, ils pouvaient avoir de la sévérité et je me vengeais comme ça.
D'accord. Où André Dusselier aime-t-il ressentir des sensations fortes?
Dans un stade de foot. En regardant un foot, le match de foot à la télé avec des copains dans le canapé.
Non, mais ou mais sur son foot, corps ou dans un lieu extérieur.
Qui êtes-vous? À partir d'aujourd'hui, je ne vous
connais plus. J'ai compris cette question. J'ai compris la question.
Ah bah oui, moi j'ai peur de l'avoir comprise. Non. Les sensations fortes, c'est dans un lieu qui lui procure des sensations fortes.
Dans un anorak.
Au cinéma, au stade de foot, donc non.
Dans un télésiège.
Non.
Un téléphérique.
En voiture haute vitesse, sur des skis.
Dans un parking.
La notion de vitesse.
En tout cas, il y a une sensation, oui, de vitesse.
Au volant, non, d'un bolide.
Dans un Super 8.
Faire une activité.
Dans un manège.
Exactement.
Un manège.
Dans les parcs d'attractions. Ah, ouais. Assumer, André Dusselier, assumer.
Oui, j'aime beaucoup ça. C'est resté, depuis que je fais des pirouettes de tout jeune sur l'herbe, etc., j'ai cette sensation de chatouiller, etc., que j'ai voulu retrouver. Et en effet, c'est la part du trône actuellement, ou bien il y a les grands 8, et j'aime bien ça.
Vous avez besoin de parler.
Vous prenez le grand 8 encore maintenant?
Oui.
Pour venir ici, par exemple.
C'est pas mal.
Je suis venu en grand 8.
Mais est-ce que vous avez poussé cette adrénaline à sauter en parachute, à aller avec la patrouille de France, le voltigeur?
Je suis un peu limité dans mes émotions.
Non, mais vous êtes lâche.
J'imagine que vous avez dû être souvent sollicité pour être parrain, par exemple. La Patrouille de France fait souvent avec des personnalités comme ça des opérations de communication.
Non, parce que moi, j'ai pas vraiment la tête d'un sportif. Dans mes films, je passe de la chaise au canapé, donc c'est pas vraiment extraordinaire.
Pourtant, il y avait un spectacle.
Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs
sur l'apologie du sport.
Oui, sur le sport, et puis même dernièrement.
On pense pas spontanément à vous pour le sport,
pas du tout, jamais.
Ouais. Alors voilà.
Quelle erreur.
À grand regret.
Quelle erreur.
À grand regret.
Faut le voir en short, parce qu'on voit que. Non, mais là, il a des beaux mollets, on sent que c'est musclé, tout ça.
C'est entretenu.
Mais faut pas voir la tête. La tête. Non, mais je veux dire que la tête.
Va pas avec son corps.
Non, André, te fâche pas. T'as la tête d'un poète.
Rectifie un peu les choses.
D'un poète, d'un grand romantique.
Oui, d'un calme. D'un calme.
Non, vous êtes d'accord.
Absolument.
Mais en short.
C'est son talent, je dis. Il cache son jeu tout le temps.
Il incarne la sérénité.
Non, mais Zidane peut être très, très poétique aussi dans son jeu. Et Zidane peut être très poétique dans son allure.
Et très calme dans son visage.
Voilà, c'est vrai. Et puis tout d'un coup.
Tu trouves que tu ressembles à Zidane?
Non, pas du tout.
Quelle modestie.
Où Sabine Azéma, Sabine Azéma a-t-elle le plus peur?
Ici?
Dans le train fantôme.
Alors non.
La nuit?
C'est pas une attraction de parc.
Dans une forêt? Dans un parking souterrain?
Pas loin.
Au théâtre?
Non.
Enfermé seul dans le noir?
Dans une cage d'escalier?
Ah, en voiture?
Voilà.
Ah ouais.
Tu étais dans le parking, maintenant c'est la voiture. Vous avez peur en voiture, que vous conduisiez ou pas?
Ah oui, les deux, c'est abominable. Et André en sait quelque chose, il ne veut plus jamais me prendre dans sa voiture.
Vous vous emmenez, vous voulez dire? Je ne veux plus vous emmener dans la voiture.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Pas l'emmener, je ne veux pas. Non, ça va très très loin. C'est vraiment, ces phobies sont. Oui, c'est même dangereux parce que.
Oui, mais t'as toujours ton permis.
Conduire sur le périphérique à 30 à l'heure.
T'as toujours tes points de permis.
Oui, bien sûr.
Ouais, d'accord.
Un jour, on était allé faire du ski, je crois, ensemble, à 3h de l'après-midi, il m'a dit non, André, il faut rentrer, il fait nuit. Ça va très loin.
La nuit tombe plutôt à la montagne, oui, mais 3h30, non, c'est pas raisonnable.
Dans les vallées reculées. Hein.
Étudiant, enfin, quel petit boulot faisait André Dusselier alors qu'il n'y connaissait rien du tout?
Prof de maths.
Il enseignait quelque chose?
Il le transmettait quelque
la
chose.
La musique?
Non.
Douanier?
Non. Tu transmets quoi aux douanes?
Non, mais un jour ça va tomber. Donc.
Donc c'était de l'enseignement.
Prof de maths.
C'était de l'information.
Il était guide touristique.
Exactement. Vous guidiez sans savoir ce que vous racontiez ou en ayant potassé un bouquin quand même?
Je potassais des bouquins, mais évidemment au bout d'un certain temps, puisque c'était des journées où on allait en Autriche, en Suisse, en Italie, donc évidemment avec tout un quart que j'étais obligé de... Alors bon, les premiers monuments, j'avais un peu révisé, mais au bout d'un certain temps, je dis... Là, vous avez une église à droite, il y a Chamblay à gauche, et puis bon, c'était un peu limité là aussi.
L'escroc.
Mais... Et tout ça en français, vous n'aviez quand même pas des...
Oui, c'était avec des touristes français.
D'accord.
Et non, et on a bien voyagé, on s'est bien amusé au bout d'un certain temps, parce qu'ils ont bien vu quand même que j'étais
vous été démasqué,
pas vraiment
oui, ce que
l'assistant
dit,
voyageur, oui, et qu'il fallait. Mais bon.
Ça développe, c'est quoi? C'est votre talent d'improvisation aussi?
Oui, exact.
J'imagine.
C'est une bonne école.
Parlons donc de Tanguy, le retour avec ce couple qui, 16 ans plus tard, voit débarquer leur fils de 44 ans, fils qui a fait sa vie, qui est installé, qui a des enfants, qui est loin, qui mène véritablement une autre vie. Et d'ailleurs, vous êtes, sans faire de mauvais jeu de mots avec la distance du Japon, vous êtes à 1000 km d'imaginer qu'il puisse y avoir ce retour. Ah, tellement vous vivez heureux tous
oui,
les deux.
Oui, il est autonome, tout va bien, il est marié.
Il est propre.
Il parle chinois couramment.
Il a des sous.
On a plus de nouvelles, on est tranquille, et puis tout d'un coup, ça sonne à la porte un jour. Et là, Sabine va ouvrir, et donc, il est en pleurs, en larmes, défait. Sa femme l'a quitté.
Sa femme l'a quitté. Il vient avec sa fille.
Il vient avec sa fille, oui, c'est vrai, j'avais oublié, parce que c'est vrai, c'est un élément important, parce que les Chinois, quand ils arrivent, enfin bon, voilà, ils viennent nombreux quand même, au fur et à mesure.
Ah bon, on n'est pas dans le cliché.
Non, c'est vrai, on pourrait le penser, mais
bah, là on était.
Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la même vie. Ils vivent en famille, tandis que à ce moment-là.
En même temps, il vient avec sa fille, il vient pas avec les grands-parents. C'est logique de venir avec son enfant.
J'anticipais un peu sur la suite, l'évolution du film. Mais disons que c'est vrai.
La femme étant partie, lui se retrouve seul avec son enfant. Et
il veut maman.
J'ai envie de dire oui, quel que soit le pays d'où il reviendrait, il revient avec sa fille en disant on a été abandonné. C'est qu'une question de jours. Il faut qu'on s'organise.
Exactement.
La première annonce, c'est ça.
Évidemment, il va rester quoi, une semaine, deux semaines, et puis. Bon, allez voir le film.
Oui,
il faut en parler un peu.
Mais on est là pour en donner envie aussi.
Oui, ben voilà.
Quoi?
Il reste 1h10,
là, Céline. Il fait nuit.
Voilà. Ça va être très long.
Ça va être très long.
C'est galant.
Très long. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que aucun des trois, j'ai envie de dire, personnages, que ce soit les parents ou l'enfant, n'ont oublié le premier film. C'est-à-dire, on sent quand même qu'ils savent très bien que ça s'est pas bien passé avant. On ne redémarre pas d'une page vierge non plus.
Sauf lui, parce qu'il retrouve ses marques quand même. Il est heureux.
C'est vrai.
Finalement, petit à petit.
Mais
il dit,
je sais bien que ça vous embête que je suis là.
Mais il y a beaucoup de compassion de la part des parents. C'est vrai qu'on a envie de soulager, de le soutenir. Et puis petit à petit, on est bien à la maison. Comme dit Sabine, il est bien à la maison. Donc, on reprend ses habitudes. Et comme nous tous, d'ailleurs, je pense que c'est agréable.
Ouais, faut dire que tout le monde serait bien dans votre maison. Ouais. Hein, vu le niveau social où on se situe.
Pas mal.
Mmh. Ouais. On sent qu'il y a du budget au niveau de la vue, du parking. On ne sait pas trop d'ailleurs où ça se trouve dans Paris. J'ai reconnu le parking.
Pas loin de chez vous.
J'ai reconnu le garage.
En plus, oui.
Mais oui, le garage est à côté de chez
moi. La rue, je la connais.
C'est vrai?
C'est la rue Lepic.
Oui.
Donc c'est la rue Lepic. Mais je ne crois pas que l'appartement soit au même endroit que le garage.
Ah. Mais il connaît parce qu'il fait travailler des gens dans le garage.
Tu vois, est à Épinay.
L'appartement est à Épinay.
Ouais. Voilà. Ah, l'appartement, mais la rue, tout ça.
Le garage, ça, je te le dis, il est même à côté d'un resto, je l'ai bien repéré. 92 ou un truc comme ça, rue Lepic, ça, je passe devant tous les jours.
Il y a une plaque maintenant.
Mais. Je te dis, il y a une plaque, mais elle est d'immatriculation, ce qui est normal sur la porte d'un parking. Non, mais donc, on les sent cossus, ils jouent au golf, ils ont leur confort.
Ils sont très occupés,
matériel.
Très occupés. Oui, il y a le prof de sport qui vient à la maison.
Libre, quoi, qui fait ce qu'il a envie de faire, de vivre sa vie, sans attache, sans contrainte, et puis voilà, jusqu'à ce qu'il arrive.
Et alors, tout ça, cette idée part d'une réalité, que ce soit celle d'un mari abandonné à cause d'une épouse qu'il a quittée ou d'une situation sociale où on se retrouve au chômage et donc. Soit après un divorce, soit parce qu'on ne peut plus payer son loyer, réellement des enfants aussi adultes reviennent chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent plus vivre où ils étaient.
C'est le cas, ça n'a plus rien à voir
avec. Je pense que la relation avec les parents a changé. C'est-à-dire que maintenant, les enfants sont très très bien chez les parents. Hein. Les enfants sont un peu rois maintenant. Il y a quelques années, c'était pas du tout comme ça. Et donc maintenant, en plus, souvent, il y a des enfants, les parents ont divorcé. Donc,
c'est une famille formidable, famille recomposée avec des enfants de
Oui, les mamans sont contentes de voir revenir le petit dernier, éventuellement.
Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là. Et puis la maison, et bien, agréable.
Ah, mais les enfants qui reviennent, c'est vrai que c'est pour des raisons économiques aujourd'hui, hein, la plupart du temps. Globalement. C'est plutôt pas forcément facile, tandis que...
Ou des divorces, pas forcément là, parce qu'il a été carrément plaqué, planté, mais il y a aussi des divorces ils doivent payer, ils n'ont pas les moyens de payer à la fois la pension alimentaire et à la fois deux loyers, c'est-à-dire celui pour l'épouse et un loyer pour eux. Mais alors, il y a une nouvelle tendance qui, je crois, donnait un film, mais j'ai plus le titre en tête.
Retour chez ma mère.
Avec Alexandre Alassane.
Alors, il y a un peu ça, mais la nouvelle tendance sociale, ce sont des pères divorcés qui se mettent en coloc entre eux parce que justement.
Les dents pipi au lit.
Ils n'ont pas les moyens. Oui, un peu aussi.
Arnaud Ducret et Louise Bourgoin.
Ils n'ont plus les moyens de. Donc, ils trouvent des colocs pour pouvoir payer l'appartement, sinon pas les moyens de payer et la pension alimentaire et de payer un deuxième loyer. Donc, tout ça est finalement dans l'air du temps. Mais le problème de Tanguy, alors je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans l'histoire parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Nous, là, on a fait que les 10 premières minutes du film dans ce qu'on a raconté.
Disons qu'insidieusement, tout va commencer à se dégrader et il est très ambigu, ce Tanguy.
Parce c'est ce qui te plaît, toi. Hein.
Ah oui, c'est la subtilité du film aussi. C'est jouissif pour le spectateur parce qu'on sent bien qu'il est, un peu retors. Il joue un double jeu, voire un triple jeu. C'est formidable. Il faut dire que sa fille aussi, elle est en âge de passer le bac et elle parle couramment français. C'est pas une immigrée qui devrait s'adapter, etc.
Non, elle est même très mûre.
Elle est très mature.
Peut-être la plus mûre de tous. Et puis, il y a ces proverbes chinois qui viennent régulièrement.
Enfin, elle est plus que mûre, elle est chiante comme la pluie. faut le dire. Toujours à citer des proverbes et tout. Si.
C'est pas elle qui cite les proverbes en permanence.
Elle en fait. Elle en cite des proverbes.
Moi aussi, j'en fais.
Aussi.
Oui.
Vous avez oublié.
Non, alors, il y en avait déjà dans le premier film, me semble-t-il. Ces proverbes étaient déjà présents. Mais ils sont pure invention d'Étienne Chatillaise.
Non, ils existent vraiment.
Tous,
Confucius.
Vous n'avez pas lu Confucius.
Je ne connais pas le travail de Confucius.
J'ai pas eu le temps, là, parce qu'il y avait la Champions League hier soir, donc j'ai pas eu le temps de tout lire. Et Hugo Lloris, ça fait un très beau match. Mais non, je ne savais pas que c'était de véritables proverbes. Ça sonne comme de véritables proverbes. Il y a toujours un fond de pensée et de philosophie. Mais la manière dont ils sont ressortis, au moment où ils sont ressortis, ça fait un vrai décalage, quoi. C'est le chaud et le froid. Non, c'est un bon moment que vous allez passer avec Tanguy, le retour. Et encore une fois, c'est tristement dans l'air du temps. Tristement ou pas, parce que
joyeusement.
Il y a quelques parents qui doivent être contents aussi, eux, de revoir débarquer leur enfant. Vous non, mais... En l'occurrence, certains peuvent être contents.
Contentes.
Tanguy le retour avec Éric Berger. Et puis, on en reparlera avec Tanguy Passureau tout à l'heure, qui vous en veut, évidemment, parce que son prénom est définitivement pourri à vie. Et là, il y a comme une couche, il y a un rappel. Un rappel du BCG qui revient et il en souffre énormément. Il vous le dira directement. Père Albert, vous savez que ça va être un succès.
Cher Nangui, eu égard au grand talent de Sabine Azéma, coco Sabine, comédienne aussi piquante que piquée, surtout dans ce film, et d'André Dussolier, coco André, comédien aussi baroque que barré, ça sent bien, eu égard bien sûr au succès du Tanguy initial, il y a tout lieu de penser que Tanguy le retour va connaître un succès d'autant plus colossal que toute comédie étant, comme le disait Feydeau, la réfraction d'un drame, le retour chez leurs parents, on vient d'en parler, de jeunes adultes, est un problème sociétal, comme dirait Leïla Kaddour, problème qui touche un vaste public. À part les crottes de Saint-Moré, il y a des jours où je me dis que je devrais officier dans les émissions d'Aller réveiller à France Inter. Ceci étant, chère Sabine, cher André, si au début du film je me suis dit... Enfin, une histoire qui exalte les vertus de la famille, dont les imputrescibles piliers sont un papa, une maman, un papa. Ou plutôt, 15 ans après Tanguy, un papi, une mamie. Surtout si l'on tient compte des problèmes de mémoire et de prostate de Paul, on voit ça dans le film, et des douleurs articulaires d'Edith. Hélas, j'ai vite déchanté, car je me suis rendu compte avec beaucoup de tristesse et de dégoût qu'en découvrant... Qu'en couvrant à nouveau de ridicule le prénom Tanguy, vous venez de le dire, Nagui, dont il faut bien admettre, et j'en demande pardon à notre Tanguy, Pastureau, qu'il a quelque chose de désuet, de presque ridicule, comme d'ailleurs tous les noms en gay. J'ai réalisé donc une fois de plus, le film renouait avec l'amoralisme dans lequel le réalisateur, Étienne Chatillier, coco Étienne, si tu nous regardes, je sais pas où est la caméra, Étienne Chatillier se vautre depuis toujours, ce qu'atteste sa filmographie. La vie est un long fleuve tranquille ou la fougue charismatique d'un prêtre. Le père Auberger, alias Patrick Bouchité, est souillé. Jésus revient. Tanti Daniel, ou une vieille femme énurésique, fait pipi au lit, se fait gifler par sa nounou. Le bonheur est dans le pré.
Ah oui, c'est Isabelle Nanty d'ailleurs qui
oui, l'a gifle. Isabelle c'est qui vrai. Gifle. Ou Nicole. Alors, le bonheur est dans le pré. Ou Nicole alias Sabine Azéma. Oui, toi, Sabine. Sombre dans l'adultère en se laissant tamponner par Gérard, concessionnaire automobile, qui, pour qui joint de culasse et pare-choc arrière n'ont pas de secret. Alors, si j'en avais le temps, chère Sabine, cher André, je procéderais sur vos personnes à un exorcisme flash. Mais, Nangui Piaf d'impatience, oui. Je vous laisse tout en vous absolvant, car je t'aime, Sabine. Je t'aime, André. Promis ? Bonne émission.
Ah oui, eh oui, le premier du coup. Merci Albert Algou, mais tu penses pas si bien dire, j'ai failli m'appeler Tanguy.
Mais non. Je te jure. Enfin pourquoi ?
Mais pourquoi faut,
in extremis.
Faut demander à mes parents. Non, mais il y avait un débat dans la famille en disant mais on l'appelle comment ? Alors, il y avait le Naguib oui, arabe et le et
c'est
le
quand même plus joli.
Et le Tanguy et donc le compromis c'est
et Tanguy mais c'est breton, c'est ça ?
C'est breton avec c'était un moine breton.
Oui, c'est ça hein.
Qui voulait dire écoute. Chien de guerre.
Ah,
chien
c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Ils ont choisi Nagui, chien de vie. Ils se sont dit, tiens, ça ira mieux. Bon, enfin bref, j'ai échappé belle en tout cas dans cette histoire. Mais Tanguy reviendra t'en mettre une couche tout à l'heure.
T'en mettre une couche.
Bah, oui, sur la manière dont il a insulté les prénoms. La musique est présente aussi. On a bien compris, André Dussolier, que vous étiez à l'initiative de ce projet, ou en tout cas que vous avez joué les entremetteurs entre les producteurs.
J'ai allumé la mèche.
Et voilà. Et dit comme ça.
Oh, le dynamiteur du cinéma français.
On ne s'attendait pas.
C'est ça. Hein.
Non plus.
André la mèche.
Mais alors,
c'est sorti tout seul.
À quel point vous avez ensuite travaillé sur le projet tous les deux, Étienne Chatillaz, est-ce qu'il y a eu des allers-retours avec des versions 2, 3, 4 du scénar? Vous avez rajouté des idées, proposé des dialogues?
Non, c'est pas le genre de la maison.
Exactement. Hein. J'allais dire la même chose. Non, ils ont travaillé avec Laurent Chouchan, son scénariste. Et puis, voilà, ils sont enfermés pendant, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Et le scénario est arrivé tout près, tout chaud, et auquel on n'avait pas envie de toucher un mot ou une ligne, parce que tout était bien pesé. C'était la comédie, quand même, le but. Donc, nous, on était heureux d'avoir cette belle partition. Non, on n'est pas intervenu.
Quand vous dites c'est pas le genre de la maison, Sabine, ça veut dire que un comédien interprète, un acteur, une actrice interprète un rôle qu'on lui donne, mais il ou elle doit quand même apporter son interprétation, justement, sa vie.
Non, je voulais dire que là, il s'agit des grandes comédies, hein, comme par exemple, j'ai travaillé avec Gérard Houry, et j'ai bien remarqué que quand on travaille avec les metteurs en scène de grandes comédies,
c'est une mécanique.
C'est vraiment au cordeau, et oui, comme les rouages d'une montre, enfin, c'est au cordeau, donc il y a un rythme, c'est musical, c'est très particulier, donc en général, ils dirigent tous à peu près de la même façon. Hein. Et mais, avec d'autres genres de films, ça se passera autrement. Quelquefois on peut...
Mais alors quel est le plaisir d'une actrice ou d'un acteur d'apporter quelque chose en plus de ce qu'on lui donne comme texte, d'apporter son jeu ou sa manière d'être ?
Ah, alors, le metteur en scène, en l'occurrence Étienne, nous dirige, il sait ce qu'il veut très précisément. Et puis nous, en secret, on essaye de... alors quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas.
Hein ? Vous essayez quoi en secret ?
Non,
d'imposer ma version
choses,
aussi
oui,
d'apporter d'autres choses. Il a peut-être pas pensé à tout, ouais. de le surprendre. Parce qu'avant de surprendre le public, il faut surprendre son metteur en scène et son partenaire.
Il y a des espaces quand même pour nous qui nous sont réservés, c'est-à-dire c'est les silences, c'est les temps, c'est les réactions.
Les
répliques évidemment, mais c'est là qu'on peut jouer aussi et c'est là que le public peut se régaler un peu, c'est-à-dire de voir un peu ce qu'on éprouve, ce qu'on vit.
C'est vous qui avez imposé ces espaces en vrai?
Non, parce qu'il les aménageait aussi. Il sait qu'on va s'y approprier et qu'on va jouer avec. Non, mais on se connaissait aussi. C'était l'avantage du premier Tanguy. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était quand même dans un territoire commun, familier avec Étienne et qu'on irait dans le même sens que lui. Quoi. Voilà.
Puis vous savez, quand on a un grand metteur en scène, on n'a qu'une envie, c'est de lui faire plaisir. Et vous voyez bien, Étienne Chatillaz a une personnalité très forte. très fort, très spécial.
Et on l'imagine calme, en tout cas, dans les tournages.
Ah, mais très calme et très charmant.
Et pas autoritaire, oui.
Ah non, mais il a une autorité naturelle fantastique. Mais, donc on n'a qu'une envie, c'est de...
Il en impose avec sa taille, déjà, donc son physique, son physique aide.
Et son humour.
Est-ce que ce qui est un humour, quoi, pince sans rire ?
Oui, oui. Ah, oui, sans arrêt sur le tournage. Oui,
est-ce qu'on va dire à l'anglaise, un peu ?
Oh, il est très moqueur, très corrosif, enfin vraiment.
Oui, mais le visage.
Impassible.
Impassible.
C'est vrai, c'est vrai.
Lorsque. Ça, c'est ce qui va bien avec André Dussolier aussi. Lorsque vous aimez ça, vous, c'est
j'adore.
Totalement. Oui. Est-ce que lorsqu'on fait plusieurs prises, c'est le moment aussi d'ailleurs d'essayer plusieurs choses lorsqu'on fait la même scène plusieurs fois?
Moi, j'essaie toujours de faire plusieurs versions. Moi, j'adore qu'on.
Vous adorez ne pas être raccord avec.
Moi, j'adore qu'on cherche ce qu'on me raconte. Mais non, mais d'essayer toujours quelque chose de neuf, de nouveau, différent. Et puis, voilà. Et puis, paf, d'arriver, ça y est, au bon moment.
Personne n'a hésité, Éric Berger non plus n'a pas hésité à accepter de remettre le costume.
Eh ben, il manquerait plus que ça.
Bah oui, parce que sans lui, c'était impossible.
Ah oui, avec lui.
Il paraît qu'il a mis deux conditions, de savoir qui réalisait le film et puis qui jouait ses parents. Voilà.
Bon, ça va, il n'a pas pris de risque. Il n'a pas pris de risque.
Qu'elle sera remplie.
Voici Tanguy, le retour, c'est aujourd'hui au cinéma. Voici Guillermo Gué.
Ça va les amigos ?
Oui !
Ah, vous me connaissez, je ne suis pas le dernier pour dénoncer les dérives de la société. Hein.
Non.
Parfois je vois qu'après un de mes billets, il y a une marche contre le réchauffement climatique. Je me dis, ah, j'ai encore fait bouger les lignes. C'est vrai, souvent les gens ils m'arrêtent, ils me disent, Ernesto, fils du forgeron. Je dis oui, qu'ils demandent. Et croyez-moi, je suis le premier embêté par ces histoires de baise-main, de génuflexion, etc. Surtout dans le RERC vers Pontoise, où ça sent comme dans un cabas. Je dis, relevez-vous, allez, relevez-vous. Et là, généralement, la personne me dit, c'est beau ce que vous faites, dénoncer comme ça les injustices du monde. Et je réponds, oh, vous savez, je le fais surtout pour Ken, hein, comme Guillaume Meurice. Oh, en parlant de Ken, je voudrais profiter de la présence de Sabine Azéma et d'André Dussolier.
Qui n'a pas compris Ken. Hein, donc
faire l'amour.
Voilà. C'est du verlan, Sabine. Ça veut dire faire l'amour.
D'accord.
Je suis désolé, Guillermo, mais il y a un moment, il faut expliquer parce que là, elle était totalement.
Je disais, en parlant de Ken.
Non, j'étais poli.
Voilà. Quelle actrice.
Je sais vraiment.
Vous rougissez.
Elle rougit.
J'ai profité donc de la présence de Sabine Azéma et d'André Dussolier pour évoquer ce qui aurait carrément pu empêcher un phénomène comme Tanguy, à savoir là. Contraception.
Ouais.
Absolument. Ah oui, le meilleur moyen d'éviter les enfants casse-cou, c'est encore de les évacuer à la source, hein, évidemment.
Évacuer.
On la connaît, mon élocution. On fait pas semblant de ces données, Nagui. Hein, on nous donne encore du boulot avec les années, mais bon.
Non, mais je trouve que de créer un néologisme.
Évacuer.
Évacuer, autant aller jusqu'au bout.
Je disais donc, évacuer les enfants qui dans le capuchon d'un préservatif, qui dans les toilettes d'un planning familial, qui dans un refus du type oui, non, quand à moi, je préférais que tu jouisses sur mon radius. Ça demande un chouille de précision, mais tu me diras merci à la fin. Pourquoi je vous parle de contraception ? Eh bien, parce qu'il y a un hashtag, finalement, qui circule pas mal en ce moment. Paye ta contraception. Ah, il est là, qui dénonce le fait que le coût, les contraintes et les effets secondaires de la contraception sont toujours à la charge des femmes, en fait. Ouais. Et quand j'ai lu ça, j'ai immédiatement, évidemment, pensé au fameux mot de Nagui, qui avait déclaré un jour, pour moi, la contraception, c'est vraiment un truc de meuf, hein, comme les émotions et la Fiat 500. Et à l'époque, j'avais adoré votre conférence TED. Pour moi, il n'y a personne qui parle mieux de l'égalité homme-femme que Nagui, à part Francky Vincent. Et c'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'en effet, je m'étais jamais senti vraiment responsable de la contraception. Ouais. C'est vrai, en fait, jamais. Et sincèrement, et depuis que je suis en âge d'avoir une vie sexuelle, et je remercierai jamais assez France Inter. Tout a changé au niveau femme par rapport à moi. Tout a tellement changé. Ah, même si, bon, voilà, Ken entre une citrouille, un sac de graines et Télérama, en écoutant Françoise Hardy, bon, voilà, c'est un délire, faut aimer Koh-Lanta, quoi, tu vois. Mais n'empêche qu'à chaque fois qu'il m'arrivait de faire l'amour sans préservatif à une fille, et je sais que c'est pas bien, oui, ça va, je sais, moi aussi j'ai vu Philadelphia, le fromage, et eh bien, sans préservatif, que je sois en couple célibataire, eh bien, pour moi, on se répartissait toujours les rôles, en fait, pour les conséquences, c'est-à-dire, son rôle à elle, c'est que j'ai pas d'enfant, et mon rôle à moi, c'est qu'elle ait pas de démangeaison. Tu vois, t'as pris la pilule, oui, ah, tu as la ch'touille, non, mais voilà, ouais, c'est bon, c'est réglé, on est parti pour ces 2 minutes 30 de plaisir. Voilà, sans préservatif, moi je tiens pas jusqu'à la fin de comment te dire adieu, vraiment clairement. Pour délire, dans mon logiciel de mec, ça a toujours été la fille qui s'occupe de l'aspect fertilité, quoi, et je me suis rendu compte à quel point c'était égoïste quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a donné envie de crevé dans le costume de Casimir, quoi, vraiment. Et j'ai 37 ans. Et il m'a fallu 37 ans pour que j'apprenne qu'en remontant ses testicules au chaud, un homme pouvait maîtriser lui-même la contraception. Vous avez déjà entendu parler du remont de couilles toulousain, vous?
Ah non, non.
Non, ben voilà, moi non plus, je savais pas pourquoi je vais souvent à Toulouse. J'ai jamais entendu parler de ça. Eh bien, la dernière fois que moi j'ai eu une remontée de testicules, je me rappelle, j'ai dû expliquer aux pompiers que j'étais désolé, que je les avais déjà rangés pour rien, que j'avais pris peur, etc. Oui, j'insiste, prenez ces 15 euros, c'était un calendrier. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est tard, 37 ans, pour apprendre des trucs sur ses propres testicules. J'ai écouté le podcast Femme Prod hier sur la contraception masculine et j'étais halluciné, quoi. C'est dit, il vaut mieux tard que jamais. Et là, je sais dorénavant que dans le feu de l'action avec une femme, quand je me dirais, merde, j'ai encore prêté tous mes préservatifs à Daniel Morin. Pour rien en plus. Ça va jamais lui servir à lui. Ah, forcément. Si tu te couches avec Daniel, le caoutchouc, ça suffit pas. Hein. Tu réclames au moins un préservatif en épicéa. Vraiment. Daniel, ils ont trouvé deux MST dans son regard. Il a un level dans le sale. Eh bien. En cas d'amour non protégé, je me dirais, cet enfant qu'on n'aura pas, ce sera aussi grâce à moi. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, Guillaume.
Bravo, Guillaume.
Mais je suis assez question, curieux, je suis assez curieux du truc toulousain là.
Mais oui, c'est un slip qui permet de garder les testicules au chaud.
Mais de les rentrer à l'intérieur.
Non, il y a des techniques qui permettent.
Tu peux aller voir sur la... tu peux commander, tu es en apnée, tu...
Non, mais je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'ai appris plein de trucs sur la contraception masculine que j'ignorais complètement, quoi, bah en fait. Oui, et c'est fou parce que c'est vrai qu'on s'en fout en général, les mecs.
Et ce qui est pas important, c'est que non seulement c'est pas que à la nana de surveiller si elle va être enceinte ou pas, d'autant que toi, en tant qu'homme, tu peux aussi ne pas vouloir faire d'enfant et ne pas laisser, du coup, la responsabilité ou la décision à la femme. Parce que c'est aussi ça la problématique pour les hommes.
Ça explique pas le slip toulousain.
Non, mais ça.
Excusez-moi, on s'écarte du vrai sujet.
Non, mais il y a un autre vrai sujet aussi aujourd'hui.
Non, mais c'est parce qu'à Toulouse, il y avait un groupuscule, pas un groupuscule, mais un groupe d'hommes féministes, très féministes, qui ont réfléchi à cette question-là et qui ont inventé ce slip qui était chauffant.
Parce que c'est chauffant, ça tue les spermatozoïdes.
Exactement. C'est pour ça que les spermatozoïdes sont. En fait, les
et donc tu fais l'amour avec ton slip.
C'est pas fertile.
Je comprends pas tout, mais en gros.
C'est ça.
Soit.
Ok, je vais aller voir.
Tanguy, donc
tu me donneras le.
On est enregistré.
Et donc, on est en direct. C'est en direct. Tout ça est en direct.
J'ai pas voulu tout ça.
Mes amis.
Les Turtles sont également dans le film. Ça, c'est la BO de Tanguy, le retour, le film qui sort aujourd'hui, et la bande originale de Sabine Azéma et André Dusselier. Sabine, vous écoutiez les Beatles au milieu des années 60.
Hey Jude,
évidemment.
Don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Ça marche toujours.
Remember.
Ça marche toujours.
To let her into your heart.
Vous entendez les Beatles, vous pensez à quoi, Sabine? À part faire des bisous à André Dusselier?
Bah, pas du tout, j'en ai pas question. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question?
Vous n'étiez pas loin de sa bouche quand même avant que je vous parle.
Mais non, c'est du fantasme.
On a les fantasmes que l'on veut écouter. C'est le principe. Les Beatles, je dis, quelle image vous avez en réécoutant Hey Jude? Vous voyez dans une chambre, dans une voiture?
Père.
Papa, d'accord.
Je vois mon père parce qu'il travaillait aussi en Angleterre, à Londres. Et. Il rapportait
les disques des Beatles.
Beatles. Wow. Et voilà. Et puis je me souviens, il rapportait aussi des kilts écossais qui faisaient fureur au lycée quand je les mettais. Donc j'avais du succès avec mon kilt et avec mes Beatles.
Et justement, 63, vous êtes au lycée Carnot, en tout cas au cours de théâtre du lycée Carnot.
Ah non.
Bah si.
Non, bah non.
Moi j'ai
ce manque de rigueur quand même.
Non, mais non. Dans Téléops en 2002.
Ah bah dans Téléops peut-être.
Bah voilà.
Pas dans ma vraie vie.
D'accord. Alors vous êtes où avec Jacques Weber et Francis Huster?
C'est plus tard.
Ouais.
Plus tard, il y avait un petit cours à Carnot, un petit cours qui était presque gratuit. Oui, au lycée Carnot, pardon. Au lycée Carnot. Mais j'étais encore moi au lycée.
François Florent.
Oui, il y avait François Florent, mais c'était pas encore le cours Florent.
D'accord.
Du tout. Et voilà, et je faisais tout le temps, je montais des pièces de théâtre, je montais des spectacles, je passais ma vie à ça. J'ai su qu'il y avait un petit cours presque gratuit là au lycée Carnot, et j'y suis allée. Et il y avait effectivement Huster et Weber, mais moi j'étais encore au lycée. Et puis ils m'ont dit que ce que c'est que cette fille, elle a encore du lait sur les lèvres.
Pour en revenir,
ça m'a vraiment vexée.
Pour en revenir à la timidité dont vous parliez tout à l'heure, vous êtes allée au cours de théâtre. justement pour vaincre un peu cette timidité?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Alors, quel a été le moteur? Quel a été le déclic? Pourquoi
un cours de théâtre? Parce que j'adorais le spectacle.
Et pas un cours de danse, et pas un cours de musique.
Ah, parce que depuis que je sais parler, j'organise des spectacles, je monte des spectacles.
Dans le salon pour la famille, vous faisiez des spectacles?
La famille, les amis, mais je passais ma vie à ça. Donc ça a continué, mais je pensais même pas carrière, faire du théâtre plus tard.
Est-ce que vous les faisiez payer l'entrée?
Oui, je faisais payer. Ouais. Pas folle. Mais c'est vrai, je ne pensais pas du tout devenir. Enfin, si c'était naturel, j'allais devenir actrice, mais j'allais devenir actrice de théâtre. J'ai même pas pensé cinéma.
Et pourtant, à cette époque-là, vous allez voir un film qu'on vous recommande, un film qui s'intitule Muriel, d'un certain Alain René.
Ah, oui.
Vous
allez parce que un des professeurs, Philippe Lodenbach, avait joué dans Muriel d'Alain René. Et je me revois devant le lycée Carnot, il nous racontait avec émerveillement le tournage avec Alain René, mais je m'en souviens encore. Donc avec des copines, on a dit, mais qui est cet Alain René? Qu'est-ce que c'est que ce film?
C'est incroyable.
Il faut qu'on aille, on va aller voir, il y a un film là qui passe, Muriel, on va aller voir ça. On y a été, j'étais trop jeune pour tout comprendre, mais c'est vrai que j'ai eu une grande émotion, l'émotion de tout d'un coup de découvrir ce qu'était que l'art cinématographique. C'était un souvenir incroyable et magique.
Quand on connaît la suite de l'histoire, c'est incroyable.
Oui, et quand après j'ai tourné au studio de Saint-Ouen, j'allais à pied au studio le matin. Et je faisais un petit détour pour passer devant le lycée Carnot. Je faisais un petit arrêt, et pour dire oh, c'était là.
Vous avez raconté, tourner. Vous avez raconté tout ça à l'arrêt?
Oh, évidemment, des milliers de fois. Je radote.
Quant à les Beatles aussi, pour André Dussolier dans cette même période.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Help. Alors j'imagine que vous avez un peu la même image que Sabine Azéma, c'est-à-dire son père lui rapporte des disques et vous êtes en kilt.
Ah oui, ça aurait été pas mal. Pas
j'ai déjà dit qu'il avait des beaux mollets.
Ça aurait été pas mal.
Dans les Beatles, ça évoque quoi pour vous?
Ah, les Beatles, le groupe favori, vraiment, je sais pas, c'était tout, danser, écouter la musique, c'était un groupe incroyable dont je surveillais chaque nouvelle chanson, je sais pas, c'était un plaisir constant.
Avec une petite préférence pour McCartney ou Lennon?
Ah, soit c'est McCartney, je pense.
Le mélodiste ou le rebelle?
Dans les notes, je peux pas m'empêcher de penser à la tragédie, quoi, et à ce truc. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est devenu, son assassin? Il est toujours en prison?
Mark Chapman, alors là, je ne sais pas du tout.
Je sais pas. Enfin bon, bref. Non, je sais pas. Je pense que Mark Cartney.
Qui a tué John Lennon?
Celui qui a tué John Lennon.
Oui, je sais. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, quoi? Est-ce qu'il est toujours en prison? Parce qu'on a toujours dit qu'il fallait pas qu'il sorte de prison.
Très bien, Guillermo.
Excusez-moi.
Oui.
Donc, vous êtes grave.
Il est très grave. Il est très, très grave. Et encore là, il est attaché, donc vous risquez rien, mais quand on va le détacher, ça va être particulier.
Vous êtes grave, c'est bon.
Non, on va.
Non, on voulait pas le laisser sortir de prison parce que simplement, il allait se faire tuer, quoi. Voilà, c'était cette histoire qui m'a.
Tellement de fans de Lennon lui en veulent, alors qu'il était fan et qu'il avait fait signer un disque à Lennon juste avant de le tuer. Mais c'est bizarre que vous. La première chose à laquelle vous pensiez sur Lennon, c'est cet assassinat.
Parce que c'est insupportable. Moi, c'est imaginé. Que ce groupe soit cassé.
Alors rassurez-vous, on me dit qu'il est toujours en prison.
Oui, bien sûr. Non, mais c'était insupportable parce qu'il y avait vraiment des tendances musicales tellement différentes, tellement opposées, mais qui créaient une harmonie magnifique.
Qui donnaient des titres incroyables. Harrison comme Lennon,
et
comme
McCartney. Et tout ça a été brutalement arrêté, quoi. Donc, c'est ça.
Et André, on vous retrouve à cette époque-là sur scène. Dans Mort sans sépulture, c'est à l'école, un texte de Jean-Paul Sartre. C'est un peu votre première grande fois sur scène.
Oui, c'était dans un théâtre, devant le public. J'étais, je crois, au lycée de Thonon, en effet. Et puis, des copains avaient monté cette pièce-là. Et c'était, je rejouais n'importe quelle pièce, quoi, vraiment, pour être dans un théâtre. Et là, c'est tombé sur Sartre et Mort sans sépulture, qui ne devait pas être une pièce forcément très, très drôle. Et, mais en même temps, c'était la première expérience. Donc, c'était enivrant, quoi, vraiment.
Et là aussi, vous vous êtes dit nécessairement, ça sera ma destinée ou pas?
J'étais loin d'y penser parce qu'en province, on pense pas, il n'y a pas de comédien professionnel. Mais enfin, disons que le théâtre me titillait de plus en plus et d'année en année, vraiment, c'était la voie était toute tracée. Enfin, c'est celle que je désirais vraiment suivre. Mais il m'a fallu encore quelques années pour y aller, franchement, à Paris, rejoindre Sabine Azéma.
En 72, 73, Sabine, justement, vous écoutiez, on en parlait avec André Dussolier. Imagine there's no heaven. John Lennon. It's easy if you try. Alors, je pose toujours la même question sur cette chanson. Est-ce que c'est ces paroles agnostiques ou c'est la mélodie qui vous qui trouve un écho en vous?
Les deux, puis les paroles, ça donne de l'émotion.
Oui, ça rejoint la chanson d'Alain Souchon. Et si en plus il n'y a personne? Si, imaginez qu'il n'y ait pas de Dieu, parce que c'est tout le propos de cette chanson qui a, encore une fois, comme souvent avec les chansons de Lennon, créé un scandale au moment où elle était sortie.
72, Sabine Azéma, on vous retrouve sur scène aux côtés de Louis de Funès.
73.
73, vous incarnez sa... Oh non, mais vous avez raison, faut être précis. Vous incarnez sa fille, mais en fait, vous pointez un peu, je crois, c'est la veille. On vous dit, tu passes un essai, et le lendemain, vous êtes sur scène avec Louis de Funès.
Le jour même.
Le jour même. Comment c'est possible, ça?
Alors, dans ce métier, il y a vraiment des surprises de temps en temps. On les attend souvent, et là, il y en avait une. Je sortais du conservatoire, je quittais mes parents. Je n'étais pas une tanguie, moi. Et je me dis, mon Dieu, on est en septembre, il faut gagner sa vie. Je n'avais pas de sous. Et je repayais mon appartement.
Il faut manger.
Bah oui. Ouh là là, je téléphone à un copain qui était dans le métier. Je lui dis, mais je cherche un boulot, tu sais pas, il n'y aurait pas un petit rôle quelque part? Comment on fait quand on n'est pas de ce milieu, hein? Et il dit, écoute, ce matin, je dois aller à la Comédie des Champs-Élysées. Bon, il y a des rôles de filles, mais je pense que ce n'est pas du tout pour toi. Mais viens avec moi, on ne sait jamais. À 10h du matin, on y va tous les deux. Oh là, il n'y avait personne au théâtre, on allait repartir. Paf, arrive un grand monsieur là, qui s'appelait Claude Saint-Val, qui avait d'ailleurs joué, après je l'ai appris, dans les films de René. Et il vient, et il dit, il s'avance vers moi, j'ai rien eu à demander, il dit, vous êtes comédienne, vous? Je dis, oui. Allez vite acheter la brochure à la valse des Toréadors, je crois qu'il y a quelque chose pour vous. J'y suis allée, l'après-midi, ils me font grimper, c'était la première répétition, ils me font grimper sur l'estrade, il y avait deux Funès, vous vous rendez compte, mon idole. Et je grimpe, et allez hop, et il fallait se battre, j'adore ça moi, me battre, il sait André, me battre sur scène, pas dans la vie, mais sur scène, et allez hop, et je t'en donne une à deux Funès, ils m'en rendent une, et ils disent, allez signer votre contrat.
Oh là, incroyable. Il était bon camarade, Louis de Funès?
Bah vous savez, il a un rôle tellement énorme, il mouillait sa chemise lui, hein. Il en changeait je sais pas combien de fois, que après il allait s'enfermer plutôt dans sa loge, c'était un traqueur, un nerveux, mais adorable avec les jeunes, mais voilà.
Ouais, c'est essentiel, voilà. C'est déjà ça, ouais, c'est déjà beaucoup. Vous, André Dussolier, vous écoutiez à ce moment-là, en 73.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance.
Cauchemar, cette chanson.
Un cauchemar. Bon, bah, faut l'arrêter alors.
Non, j'adore cette chanson de Michel Fugain.
Pourquoi dites-vous, c'est un cauchemar?
C'était le Big Bazar, mais parce que ça correspondait à une rupture sentimentale. Et donc, c'était
l'été. Combientième?
Je pense que c'était vraiment
la plus importante, en tout cas.
Ouais, la plus importante, franchement. Ouais. C'était au conservatoire, j'avais passé des concours, tout se passait bien, et j'allais rejoindre celle que j'aimais à Avignon, où elle jouait. Et donc, elle m'avait un peu protégé pendant les concours, etc. Elle m'avait rien dit, mais je suis arrivé à Avignon et j'ai bien senti qu'il y avait un malaise, que quelque chose se passait. Et il y avait cette chanson de Fugain qui passait tout le temps. Bon, enfin, j'ai fini par comprendre qu'elle était avec un autre. Et donc, là, j'ai mis mes valises à la consigne.
Et là, on parle d'un beau roman, d'une belle histoire.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
Bon, la suite a été un peu plus joyeuse pour vous quand même, André, parce que vous sortez en effet auréolé de plusieurs prix du conservatoire et vous êtes directement recruté par la Comédie Française.
Oui.
Vous allez y rester un an, mais surtout, dans cette période-là, il y a un homme qui va vous voir sur scène, un de ces réalisateurs qui vient repérer les comédiens, c'est François Truffaut.
Oui, exact. J'étais au conservatoire, c'était juste avant les concours, et il me propose de jouer un rôle dans Une belle fille comme moi, avec Charles Dederbe, Bernadette Lafont, qu'il avait écrit ce film pour elle, voilà, oui, avec Claude Brasseur, enfin, c'était vraiment, je découvrais le cinéma, c'était vraiment très inattendu. De tourner premier film avec Truffaut, mais c'était un peu spécial parce que j'avais un rôle avec d'un étudiant assez inhibé qui avait des lunettes et des gants jaunes. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que dans la vie, les metteurs en scène pensaient que dans la vie, j'avais des lunettes et des gants jaunes. Donc c'était un peu frustrant.
On va passer en 1997 où Sabine Azéma vous écoutiez. Ça m'étonne pas, elle est aussi barrée que vous, hein. Bah si, Sabine, vous vouliez ou non, un petit côté comme ça, faux folle, très agréable, Björk, avec cette musique et avec beaucoup de choses dans cette période professionnelle.
Oui, on vous retrouve dans On connaît la chanson, et puis aussi on vous retrouve derrière la caméra, dans ces années-là, quand le chat sourit, et Au casting, il y a un certain André Dussolier et un Pierre Arditi aussi.
Et un Lambert Wilson aussi, non ?
Ouais. Oui, mais attendez. Une sorte de rêverie. Ouais.
Vous réalisez ?
Ouais. D'abord, j'ai commencé à faire un petit film sur Robert, avec Robert Doisneau. Ça, j'en suis fière parce que je l'ai filmé comme je le voyais dans notre amitié. Hein. C'est celui auquel je tiens le plus. Puis après, j'ai fait Quand le chat sourit. Mais c'est vraiment, c'était de l'amusement. C'était entre les autres films. Voilà, je l'ai tourné, mais franchement... de quoi en parler pendant des heures. Hein,
c'est non, mais non, mais quel est le plaisir quand on est actrice à diriger d'autres, à écrire, à réaliser, à
être au montage.
Bah oui.
Parce que je dis toujours, moi, c'est pas actrice que je voulais être, c'est faire du spectacle, c'est-à-dire réunir les autres, les entraîner.
Mais visiblement, ça vous a pas suffisamment plu pour le renouveler. Vous en parlez
Attendez.
Non, mais vous dites n'en parlons pas, c'est rien.
Vous dites,
non,
parce que
c'était, on a fait ça avec trois sous. Voilà, et puis c'est le fait de vivre l'amitié, parce que j'avais engagé quand même beaucoup de
des
gens
potes,
que j'aimais,
bah oui.
Et de faire quelque chose ensemble, parce que voilà, je trouve ça...
Il faut monter des spectacles, en fait, vous avez envie de monter des spectacles.
Pour entraîner les autres, vous voyez, j'aime bien être entraîneuse, quoi.
Et André Dussolier, vous écoutiez...
Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule. Quelque chose qui ne va pas.
Johnny, pour toujours.
J'étais content de chanter ça avec la voix de Johnny, hein, parce qu'évidemment, avec la mienne, ça aurait été moins bien. Mais c'est top d'en reconnaître la chanson.
Ouais, playback.
En playback. C'était une merveilleuse idée, en effet, de ce film qui nous a tous marqués, parce qu'on interprétait on jouait une histoire, écrite par Jean-Pierre Bacrène et Jaoui, et puis que dirigeait Alain René, mais avec, de temps en temps, les chansons qui ponctuaient les dialogues, les scènes, et tout d'un coup, on se mettait à chanter, voilà, avec la voix des interprètes. Donc évidemment, ça faisait un effet buzz.
Et la bande-annonce était géniale.
Ouais. Oui, oui.
Un autre concept, mais
oui.
Formidable.
Oui, oui.
Formidable.
Garde républicain, vous êtes.
Ah, oui. Ah, oui. Ça, c'est le souvenir formidable. De ma vie, hein, dans le cinéma.
Il vous a plu,
c'était dur, hein, parce que la garde républicaine...
Non, c'est pas ça qui m'a plu, ah bon. C'est pas qu'il soit en uniforme, je m'en fous complètement. Ouais. Mais c'est...
Oui, on voyait pas les mollets, en plus.
C'était très beau, c'est vrai. Mais il avait demandé à sa famille de venir le voir à cheval, en garde républicain. Et je me souviens de ton cousin qui était général, t'engueulait un petit peu en disant Tiens-toi droit. Tiens-toi droit, André. C'était ça, hein.
Oui.
C'était formidable.
Vous avez beaucoup souffert dans votre vie, André.
Énormément.
À côté de Sabine, j'ai l'impression.
Famille, tout le monde.
Parce qu'il est très gentil. Nous, c'est mon souffre-douleur.
J'ai l'impression. Et même là, encore, vous le tapez. Nicole Prieur, merci de venir à ce micro.
Bonjour.
Nicole, vous êtes philosophe de formation, thérapeute d'enfants, hypnothérapeute et auteur de nombreux ouvrages sur les relations familiales. Les enfants qui reviennent. Est-ce que c'est pire que les enfants qui ne partent pas?
En tous les cas, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment un problème de société. C'est certain que je rencontre de plus en plus d'adultes devenus même parents eux-mêmes qui retournent chez leurs parents, soit après un divorce, soit après une rupture professionnelle. Et ils y trouvent quelque chose, pendant un certain temps, ils y trouvent vraiment un lieu pour se ressourcer, rebondir, se reconstruire, comme ils disent, etc. Donc, c'est un lieu important. En même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, les parents, dans un tout premier temps, sont contents de pouvoir de nouveau être utiles à leurs enfants, mais... comme vous le dites, comme c'est bien mis dans le film, il ne faut pas que ça dure.
Ça dure pas.
Parce que du coup, là, tout se transforme.
Alors, il ne faut pas que ça dure. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez
ou
est-ce que c'est le vécu des parents? Parce que tous les parents ne réagissent pas comme dans le film. Parce que là, il y a l'effet comique, évidemment, des parents qui n'en peuvent plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des parents qui se complaisent un peu aussi dans cette situation?
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était un petit peu ce qui se passait au départ. Enfin, ce qui se passe un petit peu au départ dans le film. Cette maman
la
qui
maman
en fait
heureuse.
Un petit peu trop, qui va faire le jus d'orange. J'avais envie de dire au bout de 3 secondes, Stop, Sabine. Et dites,
j'aurais dû vous rencontrer avant.
et du coup, c'est vrai, parce que si vous voulez, pour certains parents pour lesquels l'éducation, les enfants ont été un pilier, un centre de leur existence, retrouver leurs petits chez eux, c'est effectivement quelque chose de... C'est une nouvelle chance pour eux. Mais c'est un drame. Ça peut être un vrai drame pour les enfants qui reviennent et pour les petits-enfants, si jamais il y a aussi, comme dans le film, des petits-enfants.
Ce syndrome-là, ce comportement-là, est-ce que maintenant les professionnels l'appellent un effet Tanguy ou pas ?
Pas encore, mais peut-être ce sera Tanguy 2.
mais c'est quoi, l'enfant boomerang ?
Si, on l'appelle l'enfant boomerang, je n'aime pas du tout ce terme-là. De toute façon, j'aime aucun diagnostic qui peut mettre des étiquettes sur les situations, parce qu'elles sont quand même très douloureuses. On voit, il faut vraiment... on voit que quand un enfant revient à la maison de chez ses parents, j'ai envie de dire, il y a une atteinte identitaire. Il est vraiment fragilisé dans son identité. Il ne sait plus, comme à un moment donné, Tanguy, qui ne sait plus être le père de sa fille. Donc, il redevient quelque part l'enfant complètement. Il n'est plus que l'enfant de ses parents. Et du coup, il perd quelque chose de son identité. Il y a vraiment une fragilité. Donc, c'est vrai que c'est un syndrome qu'on rencontre de plus en plus. C'est vrai que quand on rencontre des parents qui arrivent à booster, sans brusquer l'enfant, il a des chances de s'en sortir. Et j'ai envie de dire... si je peux dire, moi, ce que j'ai aimé dans le film aussi, j'ai trouvé très juste, et qui est quand même quelque chose de porteur aussi, un bon message, c'est que le couple parental qui perdure, qui vieillit ensemble, qui continue à se supporter, qui est un couple vivant, hein, parce que c'est souvent on a l'image, je trouve que c'est un message super intéressant, c'est-à-dire qu'on peut vieillir ensemble, avoir du plaisir, être vivant, avoir même la bonne distance, parce que finalement, entre les deux, il y a une bonne distance, alors qu'ils n'ont pas réussi encore à faire la bonne distance avec leur fils. Et surtout, j'ai une phrase que Edith dit à un moment donné, et qui rejoint un petit peu ce que je attends moi, chez mes jeunes patients, c'est un couple qui a vécu plusieurs épreuves en sort plus fort. Donc la crise, le message implicite là, la crise dans les couples ou les crises sont inévitables et on peut sortir plus fort. Et je trouve que c'est pas mal parce que...
Si on s'en sort quoi.
On s'en sort. et non, moi, ce qui
m'a... il faut se battre, c'est pas mal de positif et quoi, en disant voilà, c'est possible.
Et, c'est pas à chaque première crise, on va pas jeter tout. Et pourquoi ça m'intéresse?
Ce qui est de plus en plus le cas, la première occasion de dire, bon, puisque voilà. C'est ça, on arrête.
Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la veille ou l'avant-veille, je ne sais pas avoir vu le film, j'ai eu plusieurs couples un peu de 35 ans qui me disaient, mais on veut essayer de traverser cette crise. C'est quelque chose qui est une petite idée qui commence à être dans l'air. Et je trouve ça chouette.
Merci beaucoup Nicole Prieur d'être venue. Tanguy, c'est ton jour. Tanguy.
Mais pourquoi vous dites-vous ça?
Tanguy Pastureau. Oui. C'est un peu la Saint-Tanguy là aujourd'hui.
Mais oui, c'est à cause du film La Suite de Tanguy qui m'a bien pourri la vie depuis 18 piges. Alors, t'habites toujours chez tes parents? J'en peux plus Nagui. En plus, vous les invitez, ceux qui m'ont fait tant de mal, mais vous êtes méchants.
Oui, exactement. Puis en plus, on n'est pas à l'heure. Merci d'être venu au rendez-vous avec Léla Kadobou-Dadi, Daniel Morin,
bonjour Maggie,
Albert Algou, Tanguy Pastureau,
bonjour
Guillermo.
Ah oui, Guillermo.
Bah dis bonjour. Bah, dis bonjour.
J'ai dit bonjour.
Bah, articule un peu. Et nos invités, bouge ta langue. Sabine Azéma, André Dusselier, Éric Berger, ce beau monde à l'affiche aujourd'hui de Tanguy le Retour, le nouveau film d'Étienne Chatiliez, qui n'a pas dû être trop difficile à convaincre, j'ai le sentiment, non?
Il est parti vraiment vite, oui, dans cette histoire, mais enfin, fallait-il qu'il soit inspiré, mais parce qu'il fait à chaque fois des films tout à fait différents, d'ailleurs, qui ont souvent le thème de la famille, enfin, il creuse ce sillon-là, mais donc on ne pensait pas forcément qu'il repartirait sur une... Il a toujours envie de faire des choses nouvelles, et finalement, c'est venu assez facilement, quoi. Visiblement, il aime bien Tanguy, ça l'inspire.
Est-ce que vous entendez des projections que vous avez faites du public que vous avez croisé, que ce soit à Paris ou en province? C'est comme on retrouve de vieux amis, c'est
ça? Voilà, des cousins.
Oui, c'est ça, la famille.
La famille. Voilà, ils viennent nous voir, moi aussi à la maison, j'ai un Tanguy. Enfin, il se passe quelque chose de... très différent.
La tête de Tanguy Pastureau.
T'en as pris pour 20 ans, mon vieux.
Non, c'est pas ça. C'est dire faire tout ça pour être connu. Tu vois, Tanguy Pastureau, quand même, il bosse, il écrit.
Tous les jours,
il y a une vanne par mot. Ouais. Le mec, il bosse comme un fou et il devient un nom commun.
Mais ouais,
tu vois, le truc.
Un
type humain.
Tanguy Pastureau. Vous n'êtes aujourd'hui, Tanguy, que ressentiment.
Allez, enfoirés. Allez, pourris. Venu me provoquer jusque dans l'émission à laquelle tous les jours je participe. Alors que tous ici, chroniqueurs, présentateurs, stars, vous auriez dû faire corps avec moi, me protéger, me caresser, même si l'envie vous en avait pris, puisque le printemps est là et je suis chaud. Eh ben non, vous me trahissez. Je suis Jules César, vous êtes son fils. Je suis Jacques Chirac, vous êtes Balladur. Je suis l'humour, vous êtes les Baudins. Oui, Nagui, vous que je prenais pour un ami. Je vous ai même tapé dans le dos une fois. Je me souviens, juste après, vous aviez dit, tu refais ça chat est mort. Vous invitez André Dusselier, Sabine Azéma, qui sont à l'origine de mon malheur. En 2001, ils ont touché le pactole. Je dis ça parce que si je peux leur déclencher un redressement fiscal, ça me soulagera un peu. Avec le film Tanguy, tandis que moi, Tanguy, je sombrais. Je vivais alors en Bretagne et du jour au lendemain, des milliers de cons se sont mis, dès que je disais que je m'appelais Tanguy, à me demander si j'habitais chez mes parents. Étienne Chatiez, le monstre qui a tourné ce film. Sans doute le moins bon de votre carrière à tous les deux, mais je ne suis pas totalement impartial. Aurait pu choisir Nagui au lieu de Tanguy. Na, ça sonne mieux que Tant. Mouskouri, elle s'appelait Nana, pas Tantan. Mais non, non, il a pris Tanguy. Et seul au fond de la crêperie de la Belette Morte, j'ai longtemps pleuré en demandant à Yannick, le patron, de me faire une complète Xanax, Valium, Lexomil. Le seul truc, c'est qu'avant, j'étais un vulgaire anonyme, comme nos auditeurs, et que maintenant, je cartonne plus 400% d'abonnement à mes podcasts. Laurie Tillman, ici en studio, m'a un jour souri. Je n'avais jamais vu autant de dents. Cette femme est plus saine qu'un flacon d'Ajax. Mais en 2019, c'est différent. J'ai le pouvoir. Et tel Loïc Y, le Malcolm X breton, je vais me battre pour mes frères. Say it loud, I drink Shushan and I'm proud. En réalité, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait pour me retrouver face à vous deux, monsieur Dusselier, madame Azéma. Comme Babe, le petit cochon devenu berger, s'il avait intégré les médias juste pour rencontrer Justin Bridoux, l'assassin de sa tante. Parti dans un ultime, je la cite, Gruic. France Inter, j'en ai rien à battre. C'est mal payé, c'est bourré de gens de gauche. Quand on éternue, on fait pas Hatchoum, on fait Glucksmann. Je n'ai pas peur de le dire, cette radio est très surcotée. Des humoristes moyens, j'en suis la preuve. Une rédac bien, mais pas top. Une direction frileuse qui n'a pas osé mettre à l'antenne mon concept d'émission, le Pasturo Show, tous les jours de 9h à 19h. Et puis on doit s'appliquer parce qu'on est écouté à Europe 1, ils ont une autre liberté. Non, si j'ai choisi cette radio lamentable, c'est parce que je savais qu'un jour j'allais vous croiser, vous qui vous vantiez, cette semaine dans C'est à vous, l'émission des stars qui ont des bouts de salade sur les dents, d'avoir, je cite, niqué le prénom Tanguy. Et c'est vrai qu'avant, Tanguy, c'était l'âme celte. On pensait forêt de Brocéliande, druide mort d'être tombé comme des cons sur leur serpe. Mais depuis 2001, quand on dit Tanguy, on n'a plus en tête l'image de Nolwenn Leroy nue dans de la fougère. Ce qui n'est pas plus mal, puisqu'en 2001, elle devait être mineure. Non, depuis 2001, année funeste et pour la construction et pour les prénoms, Tanguy n'a plus été que le synonyme de la loose, des types sans relief, végétant chez leur daron. C'est affreux.
Mais vous pensez vraiment que le film a coulé le prénom Tanguy?
Mais oui, Nagui. Alors je sais que pour vous, il évoque des chroniques réussies, une envie irrépressible de me faire des massages thaï. Calmez-vous un peu. Mais à cause du film, les gens n'appellent plus leur fils Tanguy. En 2001, 1800 Tanguy étaient nés. L'an dernier, on en a dénombré 6. Probablement les 6 couples qui sont fans de mon travail. Et que je salue ici Jean-Marc et Mathilde, Sylvain et Natacha, Kevin et Kelly du Pas-de-Calais, Gilles et Marie, Jacob et Kenza. Oh là, ça va être compliqué leur histoire. Et Stéphane et Sébastien. Tiens, la société évolue. Donc, à moins de convaincre d'être meilleur jour après jour pour intégrer le top 3 de l'humour avec Gilles Verdez et Marlène Schiappa, deux collègues de C8, et réhabiliter le prénom Tanguy. Écoutez cette voix, auditeur, c'est la mienne. Elle est chaude et accueillante. Faites l'amour et dans 9 mois, prénommez le petit Tanguy, en l'honneur de celui qui vous aurait fait connaître ce putain de frisson. Alors, arrivé à ce stade de la chronique, vous vous dites sûrement que je vais attenter à l'intégrité physique de monsieur Dusselier et madame Azéma, leur sauter dessus en criant « J'ai la rage !» Eh bien non. Non, car ces 18 années de psychanalyse entamées en 2001 n'ont pas été vaines. J'ai plus un sou, mais je suis zen. Et puis retournons la situation. Si plus personne ne s'appelle Tanguy, ça signifie que chaque Tanguy va être très rare. Dans un monde où tout le monde s'appelle soit Enzo, soit Emma, ça permet d'être unique. Le Tanguy va dépasser en valeur la tonne de bananes de Côte d'Ivoire. Donc ce qui devait être l'alphabet de l'horreur, ABCD, Azéma, Berger, c'est l'acteur qui a fait Tanguy, Chatiliès, Dusselier, se transforme pour moi en jury de The Voice si d'un coup j'avais la voix de François Baroin et que j'avais décidé de groover. D'autant que tous les prénoms sont dû rapporter. Monsieur Dusselier, bah, c'est pas simple. André, à cause d'André 3000, le rappeur du groupe Outkast, quand ils ont sorti Mrs. Jackson, si vous aviez voulu vous imposer dans le hip-hop, c'était foutu. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai plus de haine contre vous, c'est derrière moi. Je souhaite même que tout le monde aille voir Tanguy 2 afin de se dégoûter de ce prénom et que je devienne à terme le seul Tanguy sur Terre. Et la prochaine fois, mettez Nagui. Na, ça sonne mieux que Tant. On dit Nardinamouk. Anana, pas à Tantan.
Merci Tanguy. La belle originale. Nagui sur France Inter.
Je crois qu'il a vraiment mal quand même. Tanguy, le retour donc au cinéma aujourd'hui. C'est fort aussi le ABCD, ouais, j'avais pas remarqué, mais c'est bien vu. Avec Azéma, Berger, Chatiliès, Dusselier, cet ABCD du cinéma vous donne rendez-vous aujourd'hui, Tanguy, le retour. Un film que vous avez tourné quand, finalement? Est-ce que vous l'avez porté aussi comme un enfant pendant 9 mois ou
On a fini de le tourner en juillet dernier.
C'est récent.
Oui.
Ah oui, d'accord. Oui. Bon, on est pas loin des 9 mois. Oui.
Vous voyez, comptez.
Oui, je dis 9 mois.
Oui, oui, d'accord, j'ai entendu.
Je crois. Hein, 9 mois. 3 juillet, c'est ça. C'est comme un enfant. On est d'accord. Vous avez tourné ce film avec. Est-ce qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été retirées? Est-ce que tout était construit ou au contraire, est-ce qu'Étienne Châtillaise est un réalisateur qui sait exactement, j'ai envie de dire, tourner monter. C'est-à-dire, il sait exactement ce qu'il veut, comment placer sa caméra, est-ce qu'il aura au montage. Il anticipe le montage.
Il visualise tout. Il y a peu de scènes qui ont disparu vraiment du film.
Comment
vraiment,
tu le sais?
Tout était. Bah parce qu'il me l'a dit.
Ah.
Non, mais vraiment.
Il y a des confidences.
Vous êtes un peu toutes les scènes aussi, tous les deux, quand même. Il n'y a pas beaucoup de scènes sans vous.
Ouais, mais
en a-t-il coupé, moi, je ne sais pas.
Non, c'était millimétré. Oui, il y a une scène où Tanguy allait à la fac, mais tout était vraiment millimétré et il était très concentré sur le tournage. Ça nous a beaucoup frappé avec Sabine.
Incroyable.
Tout en gardant son humour à certains moments, mais vraiment, il ne voulait pas laisser. C'est comme une horlogerie, un film, une comédie. Donc, du coup, il ne voulait pas laisser perdre une seconde ou un quart de seconde de ce qu'il voulait obtenir.
Est-ce que, comme ça peut être souvent, pas toujours le cas de certaines comédies, ça s'appuie sur des réalités sociales, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a une morale quand même dans cette histoire? Est-ce qu'il y a, ou c'est simplement passons un bon moment sur des choses qui peuvent arriver, évidemment avec un trait grossi, exagéré, pour pousser le comique à son extrême?
Non. Comme ça a été dit tout à l'heure, je pense pas que ce soit, il y a un message moral. Je pense que c'est un constat, comme souvent il fait dans ses films, de la société ou d'une manière de vivre. Bon, alors voilà, c'est des caractères, quoi, plutôt.
Une observation.
Une observation. Mais, morale, je ne crois pas trop, non, à moins que vous y ayez vu.
Non,
ça peut donner des idées aux parents pour se débarrasser de leurs enfants, en revanche, parce que les scènes qui sont aussi à mourir de rire, c'est voir comment ces deux parents, ont beaucoup d'imagination pour essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que le fils pète les plombs ou qu'il évacue la maison, qu'il a envie de partir. Et là, on vous voit notamment comme un gosse, André Dussolier.
C'est rude, un méchant. Oui, c'est vrai. Voilà, ça peut, en effet, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres manières. Mais nous, moi, je pense qu'on a généré des générations de Tanguy parce qu'on était très copains. Moi, j'étais très copain avec. Non, pas
pourquoi. Ah, bah non, c'est un plus que 6.
Oui, il n'y a plus de prénom Tanguy, mais enfin, nos enfants étaient un peu Tanguy. C'est-à-dire qu'on était copains avec eux. Ça ne les a pas empêchés de partir. Mien à 23 ans et 22 ans, mais quand même, on était plus copains avec eux que mes parents l'étaient avec moi, par exemple. On avait envie de se barrer très
vite. C'est ça, parce que la société, on est de plus en plus. D'abord, on vit de plus en plus longtemps et on est jeune, entre guillemets, de plus en plus longtemps.
Oui,
c'est
voilà.
Ce qui se passe dans la tête aussi,
voilà,
c'est le comportement.
On le voit avec le phénomène des vacances. Il y a beaucoup d'enfants qui continuent à passer des vacances avec leurs parents, même quand ils ont quitté le nid, ils reviennent.
Pour pas payer.
Ouais, mais parce que les parents font des trucs sympas, les parents sont encore jeunes. Ils vivent plus longtemps, ils sont ouverts.
Oui, en donc, disant chacun est libre, chacun fait ce qu'il
veut. Ce que tu veux, on se retrouve au dîner. Voilà.
En espérant qu'en effet, le bon climat familial perdure. Mmh. Quoi, et voilà,
vous n'êtes pas là d'accord, Sabine?
Si, je vous écoute. Mais j'entendais le mot « ni » dans le film. Moi, je dis un proverbe. On ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de notre tête. Mais on peut les empêcher d'y faire leur nid.
Oui, voilà, et on voit bien.
Alors, c'est retenu tous les proverbes chinois.
Voilà, alors, c'est la morale, quoi.
Très bien, c'est voilà.
C'est vrai, il faut aller chercher dans les proverbes chinois. Ouais. Il y en a dans le premier qui était pas mal aussi. Aussi fin soit-il, le cheveu aussi a une ombre.
Enchaînement tout trouvé avec celui qui n'a ni ombre, ni cheveux,
plus d'ombre. Non, on nous ment les amis, on se fout de nos gueules, les contes de fées n'existent pas. Le prince charmant et toutes les conneries du genre, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est de la flûte. Alors, eurent beaucoup d'enfants, oui, pourquoi pas, mais vécurent heureux, non. La preuve en Angleterre, le couple parfait, prince William, princesse Kate, à l'image de la tourterelle qui vient de prendre une balle perdue dans le buffet, il est en train de battre de l'aile. Le palais tente d'étouffer l'affaire, mais la pression est trop forte, ça va exploser. Le futur roi, jusque-là impeccable avec ses trois marmots et son sourire de bonnet, n'est pas si simple et innocent qu'il en donne l'air. Le prince William se serait tapé une des meilleures amies de sa femme.
Non.
Une certaine Rose. Bon, c'est pas n'importe qui, c'est une marquise. Et c'est vrai que rien que le titre marquise, ça fait un peu frissonner. Hein.
Ouais.
Ça sonne un peu comme un vieux porno des années 90. Hein. Bonjour marquise.
Oh monsieur le prince, mais vous êtes tout nu.
J'avais chaud.
Au fait, vous tombez bien, j'ai un problème avec ma machine à laver. Vous avez des outils?
Ah ça marquise, croyez-moi, je suis équipé. Bref, tout ça pour dire que quand tu dis marquise, ça sent l'adultère. En même temps, peut-on lui en vouloir vraiment au prince William? Qui autour de cette table n'a jamais trompé son conjoint ou sa compagne? Hein? Qui? Bande de dégueulasses. Non,
en fait, ça dépend laquelle.
Le problème, voilà, merci, excellente réponse. Le problème, c'est que le prince a trop de temps libre. C'est vrai, prince, quand t'es pas en guerre, t'as beaucoup de temps libre. Tu serres des mains, tu poses en kilt à la campagne sous la pluie en souriant comme un con. Mais à part ça, y a rien dans ton planning. Du coup, quand t'es sollicité, et quand tu es prince, eh ben, t'as rien d'autre à foutre, eh ben, t'y vas.
Bonjour, prince.
Bonjour, Rose.
Ça vous dirait un petit quickie derrière le trône?
Vous savez, je suis plutôt du genre fidèle, mais bon, comme je suis pas hyper débordé, voyons le planning. Bah non, mon prochain rendez-vous, c'est dans 13 jours, un goûter avec mamie. C'est bon, j'ai le temps, allons-y pour le quickie. C'est comme Guillermo Guiz. Le gars, il fait une chronique par semaine, il est hyper dispo. En plus, il est beau comme un douanier transsexuel. Une grande douceur dans les traits du visage, sur un corps de brut nourri aux amphétamines. Il a beaucoup de succès, malgré son handicap de prononciation, c'est dû à une fracture de la mâchoire, j'avais soigné. Enfin bon. Du coup, quand il se fait accoster dans le Thalys, il est dispo.
Bonjour, vous êtes Guillermo Guiz?
Oui, c'est moi, je suis désolé. Vous venez vous plaindre pour une chronique inaudible?
Non, non, pas du tout. Je voulais juste vous proposer un rapport physique sans aucun sentiment dans la moiteur de la voiture bar.
Alors le problème, c'est que je suis très heureux en couple avec ma femme Bruno. En même temps, en ce moment, c'est pas la bousculade, niveau emploi du temps. Laissez-moi vérifier mon agenda. Bon, là, ça va être les vacances. Ma prochaine chronique, c'est dans 21 jours. Putain, 21 jours sans fric. Ça me donne envie de crever dans la prostate des mille louis. Enfin, oui, bref. J'ai le temps, alors faire des trucs sales. Tant pis pour Bruno.
Et à contrario, ceux qui ont des âmes de salopards, pour qui la fidélité est un rapport qui ne concerne que les chiens envers leur maître, qui sont totalement obsédés par la galipette, mais qui ont un emploi du temps chargé, bon ben, ils trouvent pas le temps de laisser s'épancher leur dégueulasserie. Bonjour Nagui.
Bonjour.
Je savais.
Ben le seul dégueulasse qui est ici, c'est toi.
Je suis hyper fan de vous.
Je comprends.
Ça vous dirait un truc sale et sans lendemain avec moi? Oh pardon, à moins que vous soyez fidèle et là je me contenterai d'un selfie.
Non, 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 je suis pas du tout fidèle. Hein, je suis ce qu'on appelle en vocabulaire technique marital un beau petit fumier.
Génial, on fait ça.
Ben là c'est cool contre un stagiaire.
Nagui, Nagui en plateau pour la répétition Taratata.
Merde, je dois y aller, désolé.
Nagui, s'il vous plaît.
Oui.
Vous allez me trouver fort, hein, mais je suis dingue de vous. J'adorerais qu'on fasse l'amour, là, tout de suite, sur le dos de votre rédacteur en chef. À moins que vous soyez un mec fidèle, et là, tant pis, je me taperai juste le rédacteur en chef.
Non, 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 non. Je suis un dégueulasse, allons-y.
Nagui, Nagui, demandez sur le plateau, pour n'oublier pas les paroles.
Merde, je dois partir, désolé.
Nagui, c'est vous, je crois pas. Si vous saviez comme je vous kiffe, je serais même prête à accepter. Oh, une grosse séance d'humiliation physique, là, maintenant, avec vous, sous le poster de Patrick Balkany. À moins que vous soyez un mari fidèle, et là, je filerai faire des choses obscènes à la mairie de Levallois-Perret.
Mais non, 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 pas du tout, restez là. On va s'éclater dans les conditions d'hygiène désastreuses, je suis prêt.
Nagui, urgence, bande originale, les invités sont là, en loge depuis 10 minutes.
Bref, la fidélité, ça ne tient pas à grand-chose. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la morale, et encore moins avec l'amour.
Avec le planning.
À demain.
La bande originale.
Tanguy, le retour, c'est aujourd'hui au cinéma avec Sabine Azéma, André Dussolier. Sabine, qu'est-ce que vous avez comme envie professionnelle? Tout à l'heure, vous avez dit que vous rêviez de monter des spectacles depuis que vous étiez petite fille. Cette envie-là s'est traduite donc par des réalisations, évidemment le jeu d'actrice. Mais pourquoi ne pas produire ou ne pas réaliser?
Ah non, produire, ou... oh là là, non.
Non.
Ouh, mon Dieu, non.
Monter d'autres spectacles.
Ah oui, monter des spectacles, donner envie aux autres de faire des choses avec moi et avec les acteurs aussi, les partenaires que vraiment j'affectionne vraiment, quoi.
Et ceux que vous pouvez embarquer dans votre aventure. Alors, quelle serait la nouvelle aventure, celle dont vous rêvez?
Rêver, tiens, j'aimerais bien repartir avec toi, André, mais pour un film totalement différent, mais vraiment très loin de celui qu'on vient de faire. Ça me plairait bien, ça. Et toi?
Vous pensez quoi, un drame ou...
Je sais pas.
J'ai un bon souvenir du Creusot où on était. C'était pas mal. C'était vraiment un bon départ.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
C'est là qu'on a tourné Le Chat-Souris.
Ah, et alors?
Elle a oublié. Bah, il faisait une référence à votre réalisation.
Ah, ma réalisation?
Oui.
Oui, oui, mais modeste, je vous ai déjà dit.
Non, mais quand vous dites je ferais bien quelque chose avec André Dussolier, c'est-à-dire vous voudriez écrire.
Ah non, là, je parlais jouer tous les deux, par exemple.
Au théâtre?
Non, 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 au cinéma. Au cinéma, j'aimerais bien qu'on nous
réengage. Elle a toujours un livre dans sa poche, avec des textes à jouer ou à filmer.
Je suis tout le temps en train d'imaginer des choses. Ouais, j'en ai plein les poches.
Est-ce que là, il y a quelque chose de précis? Est-ce qu'il y a
précis,
un
non.
projet d'une pièce de théâtre ou d'un film?
Il y a plusieurs choses comme ça, mais je ne sais pas encore vraiment. Franchement, je ne peux pas encore vous annoncer quelque chose de très précis.
3 mois de Novecento à peu près, non? Ou plus que 3 mois?
5 ans.
Au théâtre. Ouais, oui, non, là, oui, je veux dire, à l'instant, là, au théâtre.
À l'instant même, oui.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et la dernière représentation, il y a 31
jours,
mars.
Après, 31 ouais. mars.
Ça pique encore un peu?
Oh, ça pique un peu. Non, mais ça va, c'est physiquement très, très intense.
Vous sentez quoi?
C'est bizarre, non, d'arrêter une
histoire. C'est bizarre, c'est terrible, c'est affreux. Mais en même temps, il y avait la présentation de Tanguy, donc je pense que la dépression va venir, mais un petit peu plus dans quelques jours. Mais non, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de... J'ai envie de penser que je vais encore jouer quelques fois dans Vincenzo, parce que c'était un tel plaisir avec le quatuor de musiciens. Et voilà, donc... Mais pas longtemps, juste comme ça pour le plaisir. Mais parce que c'était très difficile, c'est comme un enfant avec lequel on vit, vraiment. Ça paraît un peu excessif de dire ça, mais Novecento, c'est une aventure particulière, quoi, du début jusqu'à la fin. Donc je l'avais conçu, imaginé et joué, et donc c'était un plaisir partagé. Il y a le théâtre, c'est
mais Novecento, c'est vous.
Ah, c'est pas loin, en effet. Je me suis rendu compte, pas forcément quand j'ai eu envie de le jouer, mais au fur et à mesure où je jouais, oui, qu'il y avait des choses. En effet, cet enfant qui est né sur un bateau, qui grandit et qui est bien sur les 88 notes de son piano et qui n'a pas envie de descendre à terre pour faire la compétition et qui a envie d'aller le plus loin possible en jouant, voilà, des choses que personne d'autre ne conçoit. C'est vrai que ça fait rêver, ce genre de personnage.
Et de jouer votre partition d'acteur, justement, de ne jamais vouloir l'arrêter, c'est impossible quand on est actrice ou acteur de dire... Je m'arrête.
Impossible. Mais il faudrait que la vie dure des je sais pas, mais vraiment soit très très longue. Alors il y a une phrase d'Alphonse Allais que j'aime beaucoup quand même, qui dit j'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu.
Parfait. C'est joli. Alors justement, même question qu'à Sabine Azéma. Avez-vous des idées, des projets, des scénarios qui vous sont arrivés ou des envies au théâtre?
C'est vrai qu'il y a toujours des projets qui nous viennent. En fait, on a la chance dans ce métier-là d'être choisi. D'une certaine façon. Alors,
D'être désiré, choisi,
qu'on nous propose des choses tout à fait différentes, ce qu'on aime bien faire avec Sabine, que ce soit le drame ou la comédie. Donc il y a ça déjà qui vient. Et puis après, les entreprises, c'est vrai, moi, c'est plus par le biais du théâtre, peut-être que je les imagine, je les conçois. On verra, quoi. C'est selon au gré de la fantaisie.
D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez le 4 septembre dans Fourmi, le nouveau film de Julien Rapneau, aux côtés de François Damiens. Oui. Là aussi, une histoire de père et de fils.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est François Damiens, surtout, qui a le rôle principal et qui, en effet, a son fils qui est footballeur et qui, voilà, je ne veux pas raconter le film, mais c'est très émouvant comme histoire. Et moi, je joue un entraîneur de foot. Il y a un mensonge et une vérité, une rédemption qui va être fondée sur un mensonge. Oui, donc c'est un beau sujet.
Les acteurs et les actrices vivent beaucoup avec le mensonge et dans le mensonge, de jouer des rôles, de jouer des personnages. On invente des vies en permanence.
Oui.
Non, en fait, tu dis oui.
Ah, bah, non, ça dépend à quoi on dit oui. Non, mais on vit dans le mensonge, on vit dans des personnages, en effet, qui sont inventés. Donc, en effet, ça fait mensonge, mais on le fait avec beaucoup de vérité. Donc, on n'a plus besoin de mentir par ailleurs.
Vous n'êtes pas d'accord,
Parce que c'est pas comme ça que je sens les choses. J'ai l'impression qu'on nous donne un personnage. Mais moi, j'arrive avec... j'arrive aussi. Et je mets beaucoup de moi aussi dans le personnage. Et
vous le faites avec sincérité.
Sincérité, mais voilà. J'ai pas l'impression de faire du faux. Je joue un personnage, mais qui peut être beaucoup d'autres femmes. Je sais pas, c'est plutôt creuser quelque chose pour atteindre une vérité. Puisqu'on est enfermés tous dans nos petites boîtes. C'est pour absolument aller vers la vérité des autres tout en allant vers la mienne. Je sens pas le mensonge du tout, au contraire. Mais je sais pas si je me fais bien comprendre.
Il y en a quelques-uns quand même de mensonges qui sont dans le scénar. Hein. Tanguy, le retour, il y en a pas mal entre les parents et l'enfant, entre Éric Berger qui revient dans ce rôle de Tanguy et vous, Sabine Azéma, André Solier qui jouait les parents. Tout ça devant la caméra d'Étienne Chatillet. C'est aujourd'hui au cinéma. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour les vigiles de la maison de la radio. J'ai discuté avec André Dussolier à la pause et il a décidé d'appeler Teddy Riner et Joy Starr pour venir discuter contre d'identité et courtoisie au portique sécurité de Radio France. Votre espérance de vie vient de prendre un sale coup, les amis. Désolé pour Jacques Audiard, Catherine Deneuve, Marion Cotillard, Danny Boone et tous les incontournables du cinéma français qui ont découvert ce matin le véritable patron, le boss, le parrain du cinéma, André Lamèche, Dédé la Dynamite, Doudou le Flingueur, Dom Dussolier et oui, Tremblay les Starlettes, ça va être une boucherie. Et désolé encore une fois pour vous, André Dussolier, qui, non content d'avoir été physiquement moqué par Sabine Azéma, vous avez dû revivre ce souvenir de rupture douloureuse et traumatisante à Avignon. Et là, cette femme qui vous a fait tant de mal m'a envoyé un texto à vous lire, André. Elle dit, je cite, « Désolé, André, message que je ne t'ai jamais oublié. Je t'aime toujours, je suis à toi, je reviens. » C'est signé Mireille Mathieu.
Tant qu'il est retour au cinéma, merci Sabine Azéma, merci André Dussolier. Merci mille fois. Toujours un bonheur de vous accueillir. Et demain, Michel Simès, malheureusement, sera notre invité.
Oh non, c'est pas annulé.
On ne peut pas faire autrement.
On ne peut pas inviter les vigiles ou...
On peut donner des consignes l'entrée, en effet. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nagui. Non, on n'écoutera pas demain.
Ah, c'est gentil. Ouais. Comme d'hab.
Il y a Bruno Duvic qui est là depuis quand même une minute. Il tapait carrément sur la table d'impatience.
C'est pas le genre.
Ah bah, je suis en retard.
Ah bah, allez-y alors.
Et qui donc? Il n'y a pas que toi. Salut les amis.